France Inter.
Bonsoir, c'est Laurent Garnier. Vous êtes toujours sur France Inter, votre radio. Mais là, pour l'heure qui vient, ce sera un poil plus ma radio, comme une sorte de bande-son de ma vie. Je suis DJ, ça m'arrive aussi de cuisiner une fois de temps en temps. Et depuis toujours, je passe ma vie à chercher, à dénicher et à partager des disques. J'adore ça. J'aime presque que ça. Il y a des chances que vous ayez peut-être déjà dansé sur un de mes sets de DJ ou peut-être que vous avez entendu un de mes morceaux. Mais peut-être pas ceux qu'on va écouter ce soir. Ce soir, j'ai pas prévu de vous passer des morceaux ou des découvertes récentes. Ça, je garde ça pour l'émission Deep Search que je fais une fois par mois sur FIP. Mais plutôt quelques-uns des sons qui m'ont accompagné, ont même quasiment changé ma vie, modelé ma vie, changé ma façon de voir le monde, de l'écouter. Et je suis ici pour vous faire partager tout ça. Alors fermez les yeux, car c'est la radio de Laurent Garnier. Je suis tout jeune, je suis tout petit, j'ai pas encore compris le poids de la musique par rapport à ce que ça peut me procurer comme sensation. Et il y a une émission qui s'appelle Les dossiers de l'écran, et le générique de début des dossiers de l'écran sont ce morceau de Morten Gould, le morceau Protest. Et ça m'effraie, ça me fait très peur. J'ai peur de regarder les films. En plus, c'est une émission, bon, il y a la télé en noir et blanc, et donc c'est vieux, je comprends pas. Et ça, c'est un morceau qui a fondamentalement marqué ma vie, mais surtout qui m'a fait comprendre que la musique pouvait véhiculer et générer des émotions très fortes. À cette époque-là, mon père travaille dans les fêtes foraines. Ma mère est coiffeuse et ils sont jeunes, c'est les années 70. Et souvent, le soir, ils organisent des soirées à la maison quand moi je suis au lit. Il y a des amis qui viennent à la maison et ils dansent, ils se mettent à danser. Et forcément, j'écoute les disques que mon père joue avant de me rendormir parce que le bruit fait que je me réveille. Et il y a certains 45 tours qui restent comme ça, qui me plaisent. Je suis dans mon lit et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Yeah.
En effet, la musique de Morten Gould me fait peur, mais le disque de Titanic Santa Fe, quand je suis tout seul dans ma chambre, dans mon lit, alors que mes parents dansent avec leurs amis, ça me rassure. Ça a l'air de procurer du bonheur et de faire danser les gens. Et là, je comprends la force de la musique par rapport au bonheur que ça peut procurer. Et ce disque restera toujours gravé dans ma mémoire. Je suis vraiment tout petit, hein. C'est un petit 45 tours et c'est un disque que mon père avait dû acheter à l'époque quand il était au manège. Donc ça devait être un morceau important peut-être à l'époque. Il y a ce truc des percussions, le rythme, ça m'entraîne complètement et je ne dors pas. Et de mon lit d'enfant où j'ai envie de danser, il se passe 2-3 ans avant que je fasse mon premier spectacle.
Pedro n'est pas de Mexico, il est né du côté de Puto. Pedro n'a pas de sombrero, mais un petit costume à carreaux. Pedro n'est pas contrebandier, c'est le plombier de mon quartier. Comme tous les plombiers, à toute heure du jour, on l'appelle au secours. Pedro, Pedro, la 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 la, y a une fuite chez moi. Pedro, Pedro, la 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 la, je n'attends que toi. N'a pas un grand fusil, mais il a une boîte à outils. Pedro n'a pas un âne blanc, mais il a beaucoup trop de clients. Pedro n'a pas de señorita, mais des filles, il en a des tas. S'il passe toutes ses nuits à les dépanner, c'est qu'il aime son métier.
Sur France Inter, dans la radio de Laurent Garnier.
Je n'attends que toi.
J'ai 8 ans. Je ne mesure absolument pas ce que veut dire la boîte à outils de Pedro, bien sûr. Mais ce morceau est important. Parce que mon frère aime bien la chanson française. Il a 16 ans de plus que moi. Et mon frère, il a envie de faire des spectacles. Et forcément, je suis le meilleur cobaye pour mon frère. Et donc, il me force à apprendre cette chanson par cœur. Et ma grand-mère est mon premier public dans ma chambre d'enfant. Et j'ai chanté cette chanson, je pense, une centaine de fois à ma grand-mère, qui était mon seul public, avec mon frère qui me dirigeait et qui m'expliquait ce qu'il fallait que je fasse. Et donc, j'avais bien sûr une perruque, une robe, tout ça. C'est mon premier spectacle burlesque, on va dire. Et ce qui est assez drôle, c'est que 20 ans plus tard, on me demande de trouver un pseudonyme pour jouer en DJ pour mon premier job de DJ à l'Hacienda de Manchester. La soirée s'appelait Zumbar et on me demande de trouver un prénom espagnol. Et donc j'ai proposé Pedro. Voilà, maintenant vous savez pourquoi je me suis appelé à un moment DJ Pedro.
We got it together, didn't we?
Au même moment, bon, Annie Cordy, c'était pas forcément les disques que j'écoutais dans ma chambre, quoique j'aimais bien cette chanson, parce que je l'ai tellement chantée, elle est importante pour moi. Je découvre autre chose, un autre style de musique. Je vais chez ma tante, et je m'ennuie chez ma tante, et ses enfants ne sont pas là, et je demande si j'ai le droit d'écouter les 45 tours qui sont dans la chambre de mon cousin. Et je joue un disque. La voix de Barry White. On pourra en parler pendant des heures, la voix de Barry White. J'ai 8 ans, donc je suis dans la chambre de mon cousin et j'écoute ça sur son petit pick-up. Ça me retourne, je me prends une gifle, vraiment. Sa voix, l'orchestration, la chaleur, tout ça, j'avais jamais entendu ça sur un morceau auparavant. Et je me dis, ce disque est trop important. Je ne crois pas que mon cousin doit comprendre le côté... orgasmique, si je puis dire, de la dimension de ce disque-là. J'ai que 8 ans. Hein. Je mets le disque dans mon sac et je pars avec. S'il le cherche aujourd'hui, il est chez moi. En 1976, j'ai 10 ans, c'est le bicentenaire de l'indépendance des États-Unis. Là, mon frère persiste et signe. Il veut plus faire des spectacles, il fait des spectacles. À Bougival, où j'habite, donc en banlieue parisienne, il fait des spectacles pour les personnes âgées de la ville. Et pour le bicentenaire, il organise un spectacle avec ses copains de classe, parce qu'il il a 16 ans, donc il est toujours en classe. Et forcément, le petit Laurent dans le spectacle fait toujours Annie Cordy, comme d'habitude. Mais l'ouverture du spectacle, c'est une chanson qui va me faire découvrir un artiste qui a chanté et puis qui a aussi fait beaucoup de films. Je commence à comprendre les gens un peu différents, qui ont envie de faire bouger les codes, qui ont envie de faire bouger les limites. Et ça, c'est le morceau de l'ouverture du spectacle qu'on a chanté beaucoup, beaucoup de fois avec mon frère.
Élections présidentielles,
c'est du show business.
Les bombardiers nouveaux modèles,
c'est du show business.
Les gros scandales qu'on révèle,
c'est du show business.
Les politiciens qui s'en mêlent,
c'est du show business.
Un président qu'on assassine,
ils sont show business.
Et les témoins qu'on ratatine,
est-ce un show business también?
Un peuple qui meurt de famine,
nazis, show business.
L'agitation en Palestine,
c'est toujours du show business.
Élections présidentielles,
c'est du show business.
Les bombardiers nouveaux modèles,
c'est du show business.
Les gros scandales qu'on révèle,
c'est du show business.
Les politiciens qui s'en mêlent,
c'est du show business.
Un président qu'on assassine,
ils sont show business.
Et les témoins qu'on ratatine,
est-ce un show business también?
Un peuple qui meurt de famine,
nazis, show business.
L'agitation en Palestine,
c'est toujours du show business.
Les élections présidentielles, c'est du show business. Ça nous... ça résonne aujourd'hui. C'est drôle. J'ai 10 ans, je comprends pas forcément tout ce qu'ils racontent. Mais les films de Jean-Yann passent à la télé. Il y a d'ailleurs certains de ces films où il y a même des artistes de disco qui sont invités dans le film, qui performent dans le film. Je me rends compte que... des gens comme lui, comme Thierry Leluron, comme même Rousy. Il y a une critique de la société et je me dis, tiens, il y a quelque chose. Je suis petit, je comprends pas tout, mais ça m'interpelle et ça m'intéresse. Autant que le disque qu'on va écouter après, mais pour des raisons tout à fait différentes. J'ai 10 ans et il y a un monsieur qui a beaucoup, beaucoup compté pour moi, qui s'appelle Papa Nounou, qui était la personne qui nous gardait quand on était petit, et sa femme aussi nous a beaucoup gardés. Et lui, il était directeur chez CBS Disque, et il emmenait beaucoup de disques à la maison, et un jour, il m'a emmené ce disque-là. C'est la radio de Laurent Garnier, sur les ondes de France Inter. C'est cool, non ?
Get your
suis encore un peu jeune là pour connaître le monde de la nuit ou de savoir ce qui s'y passe, mais ayant un grand frère qui écoute du disco et qui écoute déjà un peu cette musique-là, j'en entends parler mais je ne sais pas ce que c'est. Mais quand même, sur ce disque, il y a une sorte de tampon où c'est écrit « numéro 1 des clubs ». Et là, je lis ça et je me dis « cette musique est complètement irrésistible ». Et c'est ça, la musique qui joue dans les clubs. Mais moi, je veux vivre là-bas. Voilà, moi, je veux écouter ça toute ma vie. Irrésistible, irrésistible, People's Choice. En plus, le titre est très évocateur. Party is a groovy thing. Et ça, c'était sorti sur Philadelphia International Records. Et ça a même carrément donné le nom d'un style de musique, la Philly Music, qui était les prémices du disco. Irrésistible, voilà ce que je peux en dire. J'ai un an de plus, et au journal de le générique d'Antenne 2, il se passe un truc, j'entends ça. Dix ans plus tard, on aurait appelé ça de la techno, mais là, on est en 1977. J'ai 11 ans, je me prends une claque multiphénoménale. Qu'est-ce que c'est que cette musique de l'espace ? Avec quelle machine ou avec quel instrument ? Je ne savais pas qu'il y avait des machines. Beaucoup plus tard, je tomberai dans la techno et je crois que c'est normal parce que ça a été un des sons fondateurs pour moi. Voilà. Au même moment, il se passe des choses en Angleterre, mais je capte pas encore bien la musique. Par contre, en 78, il y a un disque qui va devenir important pour moi et je vais comprendre l'importance de ce mouvement anglais.
Mir ist heute zu viel und ich hab genug. Du hältst mich so wie alle sind. Nein, nein, altes Schwein. Merkst nicht, dass ich anders bin. Hau ab, you fool of crap. Wow. Das lass ich mir nicht länger fallen. Die Mädchen sind die sexy Sadies. Sie sind die Mutter für den Staub. Bist du bereit? Dann geh ich mit Frau Holle auf den Strich. Kotz dir ab, du bist mir einfach widerlich. Ich bin nicht deine Fickmaschine. Spritz, Spritz, das ist ein Witz. Schätzchen, wir müssen auseinandergehen. Ciao, ciao, du alte Sau.
Get it! Alors, c'est drôle de découvrir le punk par une artiste allemande. Ce qui est intéressant là, c'est que je comprends par cette musique-là que je trouve brute de décoffrage, brutale. Je me rends compte que quand j'écoute ça, ma mère rentre dans ma chambre et me dit « qu'est-ce que c'est que cette musique de dingue ?» Et pour la première fois, je suis en décalage avec et mes parents et mon frère, qui aimait la musique des comédies musicales et aussi qui était très fan de musique noire et de soul et tout ça. Et je me dis pour la première fois, il se passe quelque chose, c'est différent. Et ça m'appartient. Voilà, ça c'est moi qui aime ça. Et les autres membres de la famille détestent ça. Et ça, ça me plaît beaucoup. Entre 76 et les années 80, je découvre le disco, je découvre énormément de choses. Mais mon frère, lui, il reste... Il a un restaurant, il est restaurateur, mais il fait toujours des spectacles. dans son restaurant. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de devenir DJ. Et j'ai aussi envie de découvrir le monde de la nuit, mais je suis trop jeune pour sortir, j'ai pas 18 ans. Et donc, le truc que j'ai trouvé, c'est que je vais travailler dans le resto de mon frère, je vais faire la plonge, parce que je sais qu'après, ils sortent tous les soirs avec son copain. Et donc, je leur dis, vous me payez pas, mais vous m'emmenez en boîte après. Il savait que j'avais très très envie de devenir DJ, et donc il me dit ce qui serait bien quand on fait des spectacles. Il faisait des spectacles de travestis au resto une fois par mois. Tu vas venir jouer en DJ. Mais si tu veux venir jouer, il faut que tu fasses une chanson sur scène. Et je lui ai dit à Annie Cordy, c'est fini pour moi. Et donc le nouveau personnage que j'ai fait pendant quelques années, avec ma copine de l'époque, parce que j'étais avec quelqu'un qui était un petit peu plus âgé que moi, on a chanté pendant 2 ou 3 ans une chanson ensemble sur scène, et c'était ça.
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fait vraiment la nuit, comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues me faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.
Dieu est un fumeur de Havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux. Pour l'amour de Dieu.
Dieu est un fumeur de Havane. Tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu.
Toute ma vie, comprends-moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu.
Je découvre l'univers de Gainsbourg à ce moment-là, mais surtout j'accepte de mimer cette chanson avec mes oreilles en plastique et ma fausse barbe faite avec un bouchon noirci, parce que je sais qu'après je vais jouer des disques et je vais faire danser les gens dans le restaurant de mon frère. Et je sais aussi qu'après ça, quand on va fermer le resto, je vais aller en boîte. J'ai 16 ans et c'est 2 ans avant que je parte en Angleterre. Le peu d'argent que je gagne en faisant des extras, puisque je suis à l'école hôtelière, je fais des extras et je dépense tout en disque. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que c'est drôle de réécouter ce morceau-là, mais c'est très important pour moi. 10 ans après le générique d'Antenne 2, ce fameux générique qui avait été composé par Daniel Humer, qui est un percussionniste de jazz, j'habite à Manchester et j'entends un morceau qui me... qui me fait penser à ce fameux générique et je me dis qu'est-ce que c'est encore que cette nouvelle musique de l'espace. On est en 1987, et là j'habite Manchester, et on est juste 6 mois après le début de l'arrivée massive de la house music et de l'acid house qui arrivait de Chicago et de New York. La techno n'existait pas encore, et j'entends ce disque-là. Autant avec la house, même si l'arrivée de la house, ça a été quelque chose, on sentait que c'était plus rêche, plus brutal quelque part que le disco, il restait quand même encore certaines similitudes avec la musique qu'on connaissait, avec le disco, avec le funk, avec la soul, avec toute la musique noire qu'on connaissait. Mais quand j'ai entendu ça, ça cassait tous les codes. D'où viennent ces sons? Comment sont-ils générés? Par quelle machine? Et en plus de ça, je découvre qu'on peut installer une certaine mélancolie dans une musique qui est destinée à vous faire danser. Et ça, moi qui adore, après toutes ces années, maintenant je peux vous dire ça avec certitude, mais moi qui adore la mélancolie dans la musique, arriver à mélanger la mélancolie et la force de la musique de danse, cette musique était définitivement destinée pour moi, c'est clair. Entre 88 et 90, je fais pas mal d'allers-retours entre la France et l'Angleterre à cause de l'armée et tout ça. Et à partir de 90, je décide de revenir habiter en France et je commence à travailler à la radio. Et à la radio, je rencontre quelqu'un de très important, qui a été très très important dans ma vie.
On his hand was a plain golden ring. On his hand was a plain golden ring. Story to tell. It was one that I knew very well. In my heart, it will never be spring long as he wears a plain golden ring. long as he wears a plain golden ring. As long as he wears a plain golden ring. As long as he wears a plain gold. Nighttime comes calling on me. I know why I will never be free. I can't stop these teardrops of mine. I'm gonna love him till the end of time. Plain gold ring has but one thing to say. I'll remember till my dying day. In my heart, it will never be spring. In my heart, it will never be spring. Long as he wears a plain golden ring. Long as he wears a plain golden ring. Finger he wore, plain gold ring on his finger he wore.
Ici Laurent Garnier et j'ai les clés du studio de France Inter. Écoutez quelques-uns des disques qui ont changé ma vie. Nina Simone, Plain Gold Ring, live at the Carnegie Hall, à New York, en 1964. C'est Jean-François Bizot, de Radio Nova, qui me fait découvrir ce disque incroyable, sublime, magnifique. À l'époque, je virevolte entre les radios, je travaille à Maximum, je travaille à FG, et puis je fais pas mal d'allers-retours à Radio Nova, et d'ailleurs, Nova, j'y suis resté 11 ou 12 ans. Et donc, j'ai eu le temps de passer du temps avec Jean-François, qui m'est partagé des cartons entiers de disques. Et ça, c'est un des disques qui m'a le plus touché quand je l'ai découvert. Je connaissais Nina Simone, mais c'est là où on se rend compte de cette version live, justement. Je trouve qu'elle a une puissance, c'est tellement fort en écoutant ce disque par rapport à la version enregistrée studio. Voilà, Jean-François me donne ce disque et il me dit « Écoute, comme il savait très bien le faire, très élégamment, il pouvait vous le jeter à la figure en disant « Écoute-le, tu vois, ça va te rendre moins con. » Et c'est vrai que ce disque me touche énormément. Et pour la petite histoire, quand j'ai écrit mon bouquin « Électrochoc » avec le journaliste David Brin-Lambert, David projetait après notre livre de faire un livre sur Nina Simone. Et donc pendant 2 ans où on a travaillé avec David, on se partageait des morceaux de Nina Simone. Et moi, j'avais déjà ce disque que Jean-François m'avait donné. Mais je ne l'ai jamais fait écouter à David. Je ne voulais pas lui faire écouter. Et la première fois où je lui ai fait écouter ce disque-là et cette version-là, c'est quand on est venu à France Inter pour présenter le livre. Et au tout début de l'interview, avant même de parler ou quoi que ce soit, ils ont ouvert l'émission et j'ai dit « Attendez, j'ai un morceau à jouer. Je voudrais jouer, puis on en parlera après. » Et j'ai joué ce morceau-là. Et on l'a tous écouté religieusement. Et à la fin du truc, David pleurait. Et en fait, ma première réflexion, c'était de dire « Je suis désolé, j'ai plombé le plateau, quoi. » Et c'est un morceau qui plombe. Mais c'est ça toute la force de la musique. C'est juste sublime. C'est sublime, ça transporte. On peut l'écouter mille fois. Ça, c'était la force de Bizot. Il avait ce truc de savoir exactement où faire mal quand il donnait un disque. On va changer de registre. Allez, 1991, on revient un peu à mes grands amours, donc la house et la techno, juste pour dire que cette musique se démocratise, et donc on a eu raison d'y croire. Toute la presse, tous les médias, tout le monde nous disait ça va pas durer plus de 15 jours, c'était très compliqué en France. Et puis en 91, il y a des groupes plus populaires, on va mettre ça entre guillemets, qui commencent à fricoter aussi avec cette nouvelle musique, la musique électronique, et à produire des morceaux qui sont destinés quelque part à faire danser les gens, mais aussi à être écoutés à la maison. Et donc je pense à des groupes comme Orbital, et puis après Prodigy, et Massive Attack justement, qu'on va écouter tout de suite maintenant. Unfinished Sympathy de Massive Attack. Voilà, ça c'est des gens à qui il faut absolument dire merci, parce que ces gens-là nous ont aidés à démocratiser cette musique, à la rendre un tout petit peu plus populaire et à faire accepter aux gens que même la musique générée par ordinateur, c'est de la musique. Quand je le joue encore aujourd'hui, j'ai encore la chair de poule. Et ça, quand un disque peut vous donner la chair de poule pendant 30 ans, c'est que c'est bon. Puisqu'on parle de disques importants et d'artistes importants, là on va écouter un morceau d'un artiste qui a été très important pour moi.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Le jour où tu ne me parleras plus, un jour je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux.
Là, on vient de sauter 10 ans. On est début des années 2000. La musique de Bachung devient très importante pour moi, surtout parce que c'est un moment où la techno et la house, que je porte depuis un bon moment, c'est accepté. On commence à rentrer dans les institutions. Et ça, moi, je commence à m'emmerder, en fait. Et donc, je cherche des inspirations autre part. Et c'est là où, personnellement, j'ai envie de sortir un peu de cette image toujours collée techno, que je trimbalais derrière moi. J'ai d'autres désirs. J'ai envie de faire de la musique de film. J'ai envie de travailler avec des chorégraphes, faire de la musique pour des ballets. J'ai envie d'autres choses. Je commence à faire des lives avec Éric Morin, avec qui je dirige F Communication. Éric me dit, pas de platine sur scène. Si t'as envie d'un vrai changement, on vire les platines, sinon les gens vont pas comprendre. Et donc, je commence à faire de plus en plus de productions, je commence à faire de plus en plus de musique. Je découvre de plus en plus les instruments et j'ouvre mon panel de ma curiosité. Et c'est vrai que c'est là où Bachung rentre dans ma vie, sa musique très organique. On est encore avec des choses très sombres, on est bien d'accord. Et je fais un album qui s'appelle Cloud Making Machine, où il doit y avoir, je crois, un seul morceau qui est fait pour danser, et tous les autres morceaux sont plus organiques. Et en fait, c'est vraiment une période de ma vie où j'ai des phases très fortes. J'ai une phase d'orgue, j'ai une phase blues, une phase jazz, et ça, on en parlera après. Mais j'ai eu une phase Bachung qui a été extrêmement importante, et encore aujourd'hui... J'arrive à écouter les trois albums les uns après les autres. Fantaisie militaire, je me rappelle plus celui qui est au milieu. L'imprudence, je crois. Et Bleu Pétrole, et c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et sa musique m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. À la même période, je commence aussi à découvrir le jazz. Enfin, je pense que je commence à découvrir le jazz. En fait, j'y connais rien. Mais ça m'intéresse, parce que c'est autre chose, en fait. Ça me nourrit et ça me raconte autre chose que la musique techno que je connais un peu par cœur à partir de ce moment-là. Et là, je fais un concert à l'Olympia. Après ce concert-là, je rencontre un saxophoniste qui va devenir quelqu'un d'important dans ma vie, qui s'appelle Philippe Nadeau. On part sur les routes faire des concerts. Et j'arrête pas de lui dire, moi, je veux écouter du jazz. Et à un moment, on est à Los Angeles. On commence une tournée aux États-Unis. Philippe Nadeau arrive avec un disque. Il me regarde avec son petit sourire et il me dit, parce qu'il avait quand même une sacrée gouaille. Et il me donne un disque et il me dit, toi, mon petit bonhomme, t'as envie de connaître le jazz, il va falloir que tu commences par la base. Et il m'offre Kind of Blue de Miles Davis. Et je crois que j'ai dû l'écouter 1000 fois depuis. Mais c'est pour ça qu'on va arriver sur ce dernier morceau, qui est toujours « Je ne peux pas m'en passer », en fait. Et donc, si je dois remercier Philippe, c'est de m'avoir offert ce disque qui est devenu peut-être un de mes 10 disques de chevet. Et donc voilà, il faut absolument que je termine avec ça, parce que il avait bien raison, j'y connaissais rien en jazz, et puis grâce à ça, j'ai pu découvrir beaucoup d'autres choses, et c'est ça la force de la musique, en fait, ça donne envie.
Thank you.
Voilà, c'était la radio de Laurent Garnier. Merci à France Inter de m'avoir laissé le micro. Merci beaucoup. Et puis maintenant, moi je vous rends les clés. Allez, à très bientôt. Bye bye.
Ouais, super.
Ouais, super, hein.
Et bah écoute, si c'est bien, super.
Ah,
je suis content.
Si c'est bien.
Je suis content.